Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Turquie annonce une trêve face aux Kurdes dans le nord de la Syrie. Va-t-elle être acceptée? Va-t-elle tenir? Si l'Américain Donald Trump s'en réjouit, plus que de raison, nous tenterons tout de même d'analyser cette annonce avec notre correspondant dans la région en début de journal.
Après 46 ans de vie commune, les Britanniques reprendront-ils leur liberté le 31 octobre? L'accord sur le Brexit est validé par l'Union européenne, mais le Parlement à Londres doit encore se prononcer. Nous vous présenterons l'accord dans un instant.
Portrait aussi de manifestants indépendantistes catalans. Une grève générale est annoncée dans la région aujourd'hui.
Quelle peine pour Patrick Balkany, accusé de blanchiment et de corruption. Il pourrait être de nouveau condamné aujourd'hui.
Et quelle réforme des retraites en France? Quel calendrier surtout? Le gouvernement temporise. Après cette édition, nous nous pencherons sur une autre opération reconquête, celle de Christophe Castaner. Il était hier soir l'invité de France 2. Frédéric Seyss y reviendra dans son billet politique. La trêve doit durer 5 jours dans le nord-est de la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'y est engagé auprès du vice-président américain Mike Pence hier. 5 jours, le temps pour les forces kurdes de se retirer de la zone frontalière. La médiation américaine aurait-elle fonctionné? En tout cas, Donald Trump n'a attendu que quelques minutes à peine hier soir pour prendre la parole.
It's a great day for the United States. It's a great day for Turkey.
C'est un grand jour pour les États-Unis. Un grand jour pour la Turquie, un grand jour pour les Kurdes aussi, et aussi vraiment un grand jour pour la civilisation. Donc je veux remercier tout le monde. Merci et félicitations au président Erdogan. C'est un ami et je suis très content qu'on ait réglé ce problème. Parce que franchement, c'est un super dirigeant, c'est un homme dur, puissant. Et il a fait le bon choix. J'apprécie et j'apprécierai ça dans le futur. Je veux aussi remercier les Kurdes. Ils étaient incroyablement heureux de cette solution. Cette solution, franchement, elle leur a sauvé la vie.
Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Beyrouth, tout juste revenu de Syrie. Aurélien, les Kurdes sont-ils vraiment heureux de cette solution, comme le dit Donald Trump ?
Heureux, c'est très excessif évidemment. Les Kurdes sont prêts à respecter le cessez-le-feu, mais l'un de leurs chefs hier a mis beaucoup de nuances sur cet accord. D'abord, il souligne que ce cessez-le-feu ne concerne qu'une bande frontalière de 120 km où l'offensive de la Turquie s'est concentrée, mais pas les autres fronts où, je le cite, rien n'a été négocié. Ce général souligne aussi que les États-Unis sont responsables de la bonne mise en œuvre de l'accord en insistant sur le fait que les civils kurdes qui ont fui les combats dans cette zone doivent pouvoir revenir. Pas de changement démographique, dit-il, donc pas d'installation de réfugiés syriens pour remplacer les Kurdes, comme le veut le président turc Erdogan. Ce général kurde souligne qu'il n'y aura pas d'occupation turque. Il ne parle jamais non plus de retrait des forces kurdes. On a le sentiment que les Kurdes attendent maintenant des garanties américaines ou un accord pour que l'armée syrienne vienne les remplacer.
Et ce matin, Aurélien, on a surtout l'impression que les Kurdes sont les grands perdants.
Dans cette zone frontalière de 120 km concernée par l'accord, il commençait à reculer, à perdre du terrain avec beaucoup de combattants morts ou blessés. La population kurde a aussi dû fuir, alors que de son côté, le président Erdogan lui a imposé en fait ce qu'il voulait, une zone de sécurité, du moins une partie de cette zone. Alors comme on imagine mal les Américains se déployer sur le terrain, les Turcs en partir comme ça, et comme les Kurdes ne parlent pas de retrait, la suite va dépendre surtout de l'armée, du régime de Bachar al-Assad. Les Kurdes ont passé un accord avec le régime dimanche dernier pour contrer l'offensive turque. L'armée syrienne s'est déployée, mais sans s'engager dans des combats dans cette zone frontalière pour éviter un affrontement direct entre Syrie et Turquie. Alors maintenant, les Kurdes doivent négocier avec le régime et la Russie derrière qui soutient Damas. Et ils ne sont plus en position de force. Si on résume, il y a 10 jours, ils contrôlaient le nord-est de la Syrie, militairement et politiquement. Aujourd'hui, ils ont trop besoin du régime syrien face aux Turcs et ils ne sont plus en position d'imposer l'autonomie dont ils rêvaient.
Merci beaucoup Aurélien Colli, correspondant de France Culture dans la région. L'annonce de cet accord, de cette trêve est en effet ce matin à prendre avec beaucoup de précautions, vous le disiez, puisqu'à l'instant, des combats sporadiques sont entendus dans une ville frontalière, c'est ce que rapporte une ONG sur place. Là aussi, un accord a été trouvé hier et l'on s'en félicitait ouvertement. Londres et Bruxelles ont validé un texte commun sur le Brexit lors du Conseil européen. Reste maintenant à ce que la Chambre des communes l'approuve à son tour, ce sera demain. Et ce n'est pas gagné car il manque à Boris Johnson 10 à 20 voix. Le Premier ministre a été lâché par certains conservateurs et notamment les Irlandais. Il veut toutefois y croire. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Angélique, si le texte est voté demain, il aura pour premier effet de ne rien changer.
Ah oui, pas de chaos dans les ports, pas de queue dans les aéroports et surtout aucune crise de nerfs pour les entreprises, les grandes comme les petites. Cet accord de 585 pages prévoit tout d'abord en effet une transition en douceur, une première période qui mène à la fin de l'année 2020. Il reste 14 mois, renouvelable une fois, période pendant laquelle le Royaume-Uni ne siégera plus dans les institutions, n'aura ni commissaire ni eurodéputé, qui d'ailleurs feront donc leur valise. Mais le pays gardera ses droits et ses devoirs dans de nombreux domaines, accès au marché unique, union douanière, politique européenne et réciproquement. Les pêcheurs européens garderont par exemple l'accès aux eaux britanniques. Londres devra aussi payer sa contribution au budget 2020 de l'Union et restera sous le coup de sanctions de la Cour de justice européenne. Un Brexit doux, donc période tampon qui doit permettre de négocier la future relation commerciale. Une période à l'issue de laquelle entrera en vigueur ce protocole accouché hier dans la douleur qui doit éviter le retour d'une frontière physique en Irlande.
Et justement, Angélique, c'est sur la frontière irlandaise qu'il y a eu un compromis.
Oui, un compromis qui prévoit eh bien un statut hybride pour l'Irlande du Nord. Elle restera alignée sur un ensemble limité de règles qui s'appliquent au sein du marché unique européen. Les marchandises qui arrivent sur ce territoire britannique auront en fait un statut différencié selon qu'elles sont destinées à son marché intérieur ou à transiter jusque dans les caddies des citoyens de la République d'Irlande, restés européens. Les contrôles seront effectués par des douaniers britanniques. Il faudra se faire confiance, mais il y aura un système d'inspection et un dispositif pour régler les contentieux, nous a indiqué une source diplomatique française. Le protocole précis reste néanmoins à écrire pendant cette période de transition qui s'ouvrirait le 1er novembre si l'accord est voté. L'Assemblée nord-irlandaise aura par ailleurs un droit de regard sur l'application du droit de l'Union sur ce territoire, un point qui a été très discuté ces derniers jours.
Il faut effectivement que l'accord soit voté, accepté par une majorité de députés britanniques demain. Merci beaucoup Angélique Bouin depuis Bruxelles ce matin. L'Europe toujours, qui n'a en revanche pas réussi à trouver de terrain d'entente avec les États-Unis sur les surtaxes douanières. Comme annoncé, elles ont donc augmenté en ce 18 octobre au matin. Certains produits européens sont visés par Washington. Cela va du vin français au fromage italien, en passant par le whisky écossais, plus 25% de taxes, plus 10% sur les avions Airbus. Cela représente 7,5 milliards de dollars au total. Le soleil se lève ce matin sur une ville jonchée de poubelles et de barricades. À Barcelone, le point d'orgue de la mobilisation des indépendantistes se joue aujourd'hui pour protester contre la condamnation de 9 dirigeants séparatistes qui avaient organisé le référendum d'autodétermination il y a 2 ans. Pour protester contre leur condamnation, donc, une grève générale est annoncée ce vendredi. Les manifestants ont marché ces derniers jours vers Barcelone. Ils doivent s'y retrouver. Ils répondent en partie à l'appel du collectif Tsunami Démocratie, Juliette Jay.
Tout est parti lundi d'un appel à manifester de la mystérieuse plateforme Tsunami Démocratique sur Twitter et sur Telegram, une messagerie cryptée. L'organisation anonyme est parvenue à réunir 10 000 manifestants pacifiques à l'aéroport, des Catalans de toute génération, dont beaucoup d'étudiants, qui protestent contre la condamnation des ex-dirigeants catalans à des peines de prison. Johan est l'un d'eux.
Moi, j'ai toujours été indépendantiste. Mais maintenant, je pense que ce n'est plus une question de oui ou de non à l'indépendance. Nos droits sont en jeu. La décision du tribunal espagnol, c'est le début de la censure. On veut nous priver de notre droit de manifester.
Depuis, la tension est montée et au milieu des manifestants pacifiques, quelques centaines d'émeutiers affrontent les forces de l'ordre. Parmi eux, des indépendantistes radicaux habitués de la confrontation, mais aussi des jeunes catalans radicalisés qui avancent sans capuche. Victor ne dénonce plus la violence.
Je suis d'accord à 100%. On est arrivé à un moment où les manifestations non violentes ne servent plus à rien. On ne peut plus retourner en arrière.
Hier soir, le cœur de la manifestation a opposé des militants d'extrême droite unionistes à un collectif antifasciste, au milieu desquels la police a tenté de s'interposer. Plusieurs personnes ont été blessées et quelques barricades ont de nouveau brûlé. Depuis lundi, les émeutes ont fait plus de 200 blessés dans toute la Catalogne.
C'était des précisions de Juliette Jay. Précisons que d'après le dernier sondage publié en juillet dernier par le gouvernement régional, 44% de la population est favorable à l'indépendance. 48% des Catalans y sont opposés.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Patrick Balkany revient devant le tribunal correctionnel de Paris cet après-midi.
Oui, il y attendra son jugement dans le second volet du procès qu'il concerne, accusé de blanchiment à grande échelle et de corruption. Le maire de Levallois-Perret Barret va assister à ce jugement en tant que détenu, puisque cela fait un mois qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, et ce après le jugement dans le premier volet de l'affaire Florence Turm.
4 ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience. Le 13 septembre dernier, Patrick Balkany avait été immédiatement écroué à la prison de la Santé, reconnu coupable de fraude fiscale. Le maire de Levallois-Perret a aussitôt fait appel de ce jugement et déposé une demande de mise en liberté, mais elle ne sera examinée que mardi prochain. Il comparaît donc détenu cet après-midi pour entendre le jugement du second volet de son procès, le plus important des deux d'ailleurs, puisqu'il s'agit cette fois de blanchiment et de corruption, avec au centre des débats un somptuariade à Marrakech. Les époux Balkany ont toujours nié en être propriétaires, mais l'accusation soutient qu'il leur a été offert par l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al-Jaber en échange de délais de paiement pour un gigantesque projet immobilier prévu à Levallois, projet qui n'a finalement jamais abouti. Le parquet national financier a là encore requis une peine ferme pour sanctionner l'atteinte à la démocratie. 7 ans de prison à l'encontre de Patrick Balkany, peine ferme requise également contre le milliardaire saoudien, l'avocat Arnaud Claude, considéré comme le pilote de l'opération, et Jean-Pierre Aubry, fidèle du maire de Levallois, qui aurait servi de prête-nom dans cette affaire, ce que tous les prévenus ont nié en bloc lors du procès.
Il s'était inspiré des attentats du 11 septembre. Un homme de 22 ans a été mis en examen et écroué en France au début du mois. Son projet de détournement d'avion a été déjoué, c'est ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, invité de France 2, qui précise que c'est le 60e attentat déjoué en 6 ans sur le territoire français. Et pendant ce temps, hier soir, le Premier ministre, lui, était dans le Jura, à Lons-le-Saunier, pour un débat sur la réforme des retraites. Édouard Philippe a voulu réaffirmer les 3 grands principes de la réforme, 3 points non négociables.
Le président de la République nous a demandé de réfléchir à un nouveau système, en disant qu'il y avait quelques principes simples sur lesquels on ne voulait pas transiger. Le premier principe, peut-être le plus important, c'est ce qu'on appelle un système universel. Le deuxième sujet, le deuxième élément sur lequel on est extrêmement déterminé, c'est de créer un système par points. Le troisième choix auquel on tient considérablement, vraiment, c'est un système par répartition, c'est-à-dire un système solidaire dans lequel les actifs payent les pensions des retraités. Et là-dessus, je peux vous le dire clairement, universel par point et par répartition, là-dessus, on a considéré qu'il n'y aurait pas de négociation. Alors par contre, pour tout le reste, il y a de la place pour discuter.
Une marge de négociation possible donc selon Édouard Philippe. Et d'ailleurs il y a quelques minutes, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, déclarait que la durée de transition sera adaptée à la situation de chacun. Il précise qu'il y aura d'ailleurs quelques spécificités, notamment pour toutes les professions qui engagent la sécurité. La Française des Jeux annonce ce matin que le processus de privatisation est formellement lancé pour la FDJ, qui est détenue à 72% par l'État. Elle a l'approbation de l'autorité des marchés financiers. Il y a tout juste 2 semaines, un adolescent de 15 ans était poignardé à mort au Lila en Seine-Saint-Denis lors d'un cours de sport. 1 an plus tôt, c'est un jeune de 13 ans qui était tué au Lila également dans une rixe entre bandes rivales. Pour tenter d'éviter ces drames, 72 médiateurs travaillent au quotidien pour lutter contre la violence dans les collèges du réseau d'éducation prioritaire. France Culture s'y est longuement intéressée pour un grand reportage. Rosalie Lafarge a notamment rencontré la médiatrice au collège Jean Jaurès à Pantin. Marie Cotte a 46 ans et à en croire les élèves, cela fonctionne. Voici ses témoignages.
Je suis pas l'institution, je représente pas l'institution. Le fait d'être impartial, neutre, d'être tenu à la confidentialité, ça libère pas mal la parole chez les élèves.
Je peux aller la voir et je sais que je peux lui faire confiance.
Je suis souvent dans la cour, je suis souvent dans les couloirs, donc ils viennent, on discute. Ils ont quand même compris, je ne sanctionne pas.
Quand on est avec le CPE ou avec la directrice pour lui raconter un problème, on va moins être ouvert vu que on va dire, si je lui dis que j'ai fait ça, peut-être qu'elle va me dire ça et qu'après elle va me punir, etc. Mais avec elle, elle va moins me juger que la directrice ou le CPE.
Je les amène vraiment à la réflexion en leur posant des questions sur comment tu aurais pu agir différemment, quelle est la conséquence de ton acte maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver après. Et en fait, ça les fait réfléchir.
Ça nous fait évoluer sur la façon d'être, le comportement,
c'est trop bien. Ça permet d'avoir moins de conflits avec nos camarades.
C'est beaucoup un travail de réflexion sur eux-mêmes et la solution, elle vient d'eux-mêmes au final.
Médiateur scolaire, déconstruire la violence du quotidien. C'est le grand reportage de la rédaction à découvrir à partir de 17h sur France Culture ce soir. Il est signé Rosalie Lafarge, réalisé par Annie Brault. Et il sera suivi d'un entretien présenté par Aurélie Kiefer avec le ministre de la ville, Julien de Normandie. À 8h15, pour terminer ce journal, nous vous emmenons maintenant dans le Vaucluse où l'on inaugure aujourd'hui une centrale photovoltaïque flottante, la plus puissante jamais construite en Europe. Elle se situe au nord d'Orange, à Piolenc, et elle permettra d'alimenter en électricité 5000 foyers de l'énergie solaire récupérée sur l'eau, Jean-Pierre Burlet.
Ce lac artificiel de Piolenc est un souvenir de la construction de la ligne TGV. À l'époque, on en avait extrait le remblai de la voie. Aujourd'hui, 17 hectares de ce plan d'eau sont valorisés par l'installation de 47 000 panneaux photovoltaïques. Posés sur l'eau, ils sont mieux refroidis et produisent plus, jusqu'à 17 mégawatts, ce que consomme une petite ville de 10 000 habitants. Le projet a mis 10 ans à se concrétiser. Après une phase d'expérimentation du matériel, l'assemblage de la centrale proprement dite a débuté il y a un an. Omega One rapportera aussi de l'argent à la municipalité puisque le lac est communal et loué à AQO Énergie qui a imaginé le projet et fait appel à Bouygues Énergie pour la réalisation. Notez que si l'investissement se monte à 17 millions d'euros, une partie de la somme a été injectée par la municipalité de Piolenc elle-même et qu'un financement participatif a aussi été sollicité. Tout cela fait de Piolenc une commune qui produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Une électricité verte, née du soleil, au pied des tours de la centrale nucléaire du Tricastin.
Jean-Pierre Burlet de France Bleu Vaucluse pour France Culture. Les averses seront fréquentes ce vendredi sur une grande partie du pays. Plus rares entre les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Ce matin, comptez 11 degrés à Caen, 14 à Paris, 16 degrés à Bordeaux et Lyon et 21 degrés dans la matinée à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.